Bonjour à tous, on associe ce mot d'habitude au monde des lettres, des sciences ou des arts. On en parle aussi au sujet d'un pays, d'une région ou d'une ethnie. Mais depuis les années 80, on l'applique aussi au monde de l'entreprise. Vous l'aurez peut-être deviné, il s'agit de la culture. Culture d'entreprise, un sujet devenu clé pour les managers d'aujourd'hui, mais qui reste un défi véritable pour toute organisation, car elle s'inscrit dans le temps, elle ne se déclame pas et se heurte de manière évidente à des frontières qui sont celles de l'individu et de sa vie privée. Culture d'entreprise et valeur, que partage-t-on dans un même lieu de travail ? C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui dans le cadre des conférences Vie professionnelle quelques repères proposées par le Collège supérieur où nous avons posé nos studios. Pour en parler, trois intervenants, un chef d'entreprise. D'abord, Robin Trépose, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur et fondateur de Concept Image, une agence de communication digitale. Un chef d'entreprise, un dominicain, Pascal David, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur de philosophie en lycée et vous êtes religieux au couvent de la Tourette à l'Arbrel près de Lyon.
Oui.
Et puis un philosophe, Bruno Roche, bonjour.
Oui, bonsoir.
Vous êtes agrégé de philosophie, responsable du département entreprise du collège supérieur et intervenant dans le département formation continue de l'ESSEC. On va démarrer avec l'entrepreneur puisqu'on parle de culture d'entreprise avec vous, Robin Trépose. D'abord, Concept Image, votre agence c'est quoi et quand est-ce que vous l'avez fondée ? Pourquoi faire ?
Alors, Concept Image Rhône-Alpes est né en 2004. C'était la deuxième d'une petite famille parce que Concept Image est né à Paris en 2002. Et c'est une histoire d'amis parce qu'on est tous des amis d'école de commerce et on a décidé à un moment de créer notre propre entreprise.
De communication digitale.
De communication digitale. La communication digitale, c'est les sites internet, c'est la vidéo digitale, c'est tout ce qui tourne au non-papier, au non-traditionnel.
Alors, vous avez créé cette agence de communication digitale. Elle a grandi. Vous avez recruté des gens. Et là, c'est posé à vous la question de construire un esprit, une culture d'entreprise. Comment vous l'avez construit ? Puis en quoi ça peut être compliqué de construire une culture d'entreprise ?
Alors, une culture d'entreprise, ce qui est compliqué, c'est que lorsqu'on crée, ce qui était mon cas, une entreprise, pas tant pour développer une énorme structure de 200 personnes. Moi, je crée une entreprise pour de la liberté. De la liberté d'aller faire de la philo au collège supérieur, de liberté, j'ai connu les grands groupes et ça ne me correspondait pas. Donc quand on grandit, qu'il faut accompagner des entreprises, il faut des collaborateurs et on se dit « Ah, en fait, je ne suis pas tout seul ». Donc il a fallu effectivement se dire « Mais finalement, sur quoi ? Qu'est-ce que j'ai envie de partager avec eux ? Parce qu'eux, ils viennent, ils cherchent un travail, ils cherchent à gagner leur vie, mais ils cherchent à se faire plaisir au travail, parce que sans plaisir, ça ne suffit pas ». Donc effectivement, j'ai dû me dire « Mais qu'est-ce que je vais leur dire ?» Pour les recruter, par exemple, parce qu'on se pose cette question-là. Qu'est-ce que je vais leur dire ? Qu'est-ce qu'ils vont trouver chez moi ?
Et alors, vous leur avez dit quoi ?
Et moi, je leur ai dit, vous savez faire quoi ? J'étais avec des Y, les Y...
Génération Y.
Voilà, la génération Y. Parce que forcément, dans ce métier, c'est des jeunes. Et en fait, j'ai pas pu leur dire grand-chose sur ce que je voulais. Je leur ai dit qui j'étais et comment je fonctionnais. C'est-à-dire la liberté. J'étais assez cash sur pourquoi j'avais créé une entreprise. Maintenant, j'étais persuadé qu'en travaillant ensemble, si on se faisait plaisir au quotidien. Donc, je pense que la valeur première qui est née, c'était le plaisir au quotidien. Et pour partager au quotidien, c'est avoir le sentiment de grandir, avoir le sentiment d'apprendre des choses, et de ne pas s'ennuyer, de ne pas être répétitif. Je pense que c'était ça le principal.
Vous leur avez dit qui vous êtes. Et très vite, d'ailleurs, vous leur avez dit vos valeurs et vos valeurs chrétiennes, d'ailleurs.
Oui. Parce que, bon, c'est un classique, mais on ne s'arrête pas d'être chrétien à 8 heures en arrivant au bureau. En plus, moi, je suis un recommençant. Les recommençants, c'est en général un petit peu punchy sur le sujet. Et puis, je me suis toujours dit, quand j'ai fait ma confirmation, que je n'irais pas cacher, que je devais témoigner. Donc, dans mon entreprise, qui à l'époque, on était 3, 4, 5, 6, je ne sais plus, j'ai voulu débattre avec eux parce que pour moi, au-delà des sites internet, il y a des hommes, il y a des femmes qui se posent des questions. Et en plus, sur des générations Y, peut-être un peu, même voire totalement éloignées de la foi, soit n'ayant jamais cru, soit ayant quitté la chose. Moi, je trouve intéressant de savoir ce qu'ils vivaient. Et à déjeuner, je m'en souviens, on avait pas mal de déjeuners à dire « Mais t'en es où ? Qu'est-ce qui est important pour toi ?» etc. Voilà.
Comment on gère ça ? Parce que ce n'est pas forcément évident. On va au-delà d'un partage de valeurs. C'était une question de partager votre foi là, en entreprise.
Oui. Alors pour moi, ça n'a jamais été un problème parce que je n'ai jamais eu aucun souci à parler de ça. Et en plus, ça m'intéresse d'avoir des gens qui ne sont pas croyants ou croyants d'autre chose. Comme moi, on a du débat. Et tant que la situation économique, parce qu'on en parlera, était facile, ça n'a jamais été compliqué. Parce qu'au moins, ça les interpellait. Ils disaient, bon, puis alors je disais, je vais faire le caté, parce qu'à l'époque, je faisais du caté, donc je montais faire du caté. Ah bon, tu vas faire ça, etc. Donc c'était un sujet d'ironie, évidemment, parce que ça les interpellait, mais au moins, on avait des relations vraies.
C'était quoi, en fait, presque une porte ouverte pour au moins pouvoir en parler de ce sujet, de la spiritualité?
Oui, parce que moi, je pense qu'en fait, quand on est limité au site web ou au code web ou à la créa, je pense qu'il me manque... Enfin, moi, ça m'intéresse pas assez. Ah, c'est trop sec. Il manque une personne. Et quand je disais qu'il faut se faire plaisir le matin, on se fait plaisir quand on a le sentiment de grandir, de bouger. Et comme pour moi, la foi est un axe d'épanouissement, bah, moi, ça m'intéresse de savoir, pour des gens qui ne sont pas croyants, par exemple, qu'est-ce qui les fait vivre.
Et le fait de le dire ouvertement aussi, c'était peut-être un moyen pour ceux qui au moins se posaient la question de savoir au moins qu'ils pouvaient vous en parler.
Exactement. Parce qu'effectivement, quand on a ces sujets-là, si on n'a jamais la porte ouverte, je ne vois pas qui oserait à un moment se confier. Et alors moi, quand j'ai créé l'entreprise, je n'ai jamais fait ça. Je me disais, bon, je pense qu'il faut qu'ils puissent compter sur leur patron sur certains sujets. Et ça me faisait plaisir de me dire que s'il y avait un souci, ils viendraient m'en parler. Parce que là, si j'en reviens à l'acte non gratuit, si ça se passait mal chez eux ou si ça se passait très bien, d'une façon ou d'une autre, ça avait une influence sur la boîte, clairement. Donc voilà. Il fallait qu'ils puissent ouvrir la porte et dire...
Alors vous positionnez très clairement avec vos salariés, partage de valeurs très ouvert, qui allait jusqu'au partage de votre foi. Quelles limites à ce partage de valeurs? Parce que ce n'est pas forcément si évident. Est-ce qu'il y en a des limites?
Alors j'ai vu deux limites. La limite, c'est quand la crise est arrivée, la crise économique, parce qu'à ce moment-là, ça s'est tendu, il fallait être plus présent. Et moi, je m'imaginais que je pouvais continuer à vivre ma foi à côté, continuer à faire le caté, en parler, etc. Et en fait, je me suis rendu compte, c'était pas les valeurs culture d'entreprise, mais que ça commence à se tendre. Et j'ai eu des messages en entretien annuel, bon, c'est bien ton truc, mais et nous. Donc ça, c'était une bonne leçon sur la limite du partage par rapport à ça, ou alors un partage qui devait penser que c'est bien d'aider les gens à côté, enfin aider, en tout cas de témoigner, mais il ne faut pas oublier les plus proches collaborateurs par rapport à ça. Donc ça, c'était la première limite. Et la deuxième, qui était plus, on va dire, d'actualité, je ne veux pas du tout lancer le débat, mais c'était l'année dernière quand on a parlé de la manif pour tous, où moi j'étais impliqué, ça c'est mes positions personnelles, non pas que j'en ai fait étalage, mais d'abord ils me connaissent, donc ils pouvaient se douter qu'eux, et il se trouvait que j'avais dans mon équipe un collaborateur qui était résolument pour la loi, pour des raisons personnelles, et là j'ai senti que, pareil, c'est des choses qui n'étaient pas évidentes, et que du coup, voilà. À choisir aujourd'hui, ça m'a fait réfléchir sur les limites effectivement de l'exercice de la transparence par rapport à ça.
Ça veut dire que vous auriez peut-être fait autrement, que vous aviez peut-être dépassé une ligne rouge? Comment vous le positionnez à posteriori?
En fait, pour moi, c'est important d'être en vérité. Donc, je pense qu'on a transgressé ni les uns ni les autres ce que l'on fait. En revanche, et surtout là, je parle, c'est toujours le recommençant qui parle. On se rend pas forcément compte, ce qui nous paraît forcément très évident. Ça va être perçu d'une manière qui, encore une fois, quand ça va bien, ça va bien. Quand c'est plus compliqué, comment on va gérer? Est-ce qu'on a... Voilà. À aujourd'hui, demain, je ne sais pas jusqu'où j'irai. Donc, le débat est intéressant pour savoir jusqu'où on peut aller.
On sent, en vous écoutant, qu'il y a une espèce de tension entre vous, entrepreneurs. Donc, on vous a entendu, homme de liberté. Hein, on parle souvent de la liberté d'entreprendre. Et le manager qui a géré une équipe et construire cet esprit, cette culture d'équipe, cette culture d'entreprise. Mais dont on peut percevoir dans une entreprise, c'est important de construire une culture d'entreprise. Alors, en quoi c'est important, au fond, de la construire, cette culture-là?
C'est ce que je disais, c'est que si... bon, il y a l'entrepreneur qui n'est pas forcément un manager qui va emmener des personnes, etc. S'il n'y a pas, au-delà du métier, au-delà de ce que l'on fait, si on ne partage pas des choses... alors, quand j'étais en école de commerce, on parlait du projet d'entreprise, c'était la grande époque, la grande mode, mais que ça s'appelle projet d'entreprise, culture, etc., ça reste quelque chose sur lequel se lancer, qui justifie qu'on soit là dans cette entreprise. J'étais aux assises EDC Dirigeants Chrétiens à Nantes il y a quelques temps, quelques semaines. On a beaucoup parlé des cultures de la culture d'entreprise chez Michelin et chez d'autres entreprises. Forcément, des collaborateurs qui viennent, ils regardent comment, qui est le patron, comment sont les gens. Si on n'a pas ça, qu'est-ce qui fait qu'on va bosser plutôt là ou là? Je pense que le salaire n'est pas suffisant. Enfin, c'est pas le seul critère pour se dire je vais m'épanouir. Ou alors je pense qu'on perd les gens vite.
Alors, on va parler de la culture d'entreprise et de ses valeurs à partager dans son milieu de travail, dans un tout autre contexte, avec vous, Pascal David. Je rappelle que vous êtes religieux dominicain. Ce que je n'ai pas dit, c'est que vous êtes jeune aussi, hein. Vous avez 35 ans. Vous, vous êtes professeur dans un lycée privé catholique de la région lyonnaise. Donc, c'est pas une entreprise, c'est une école. Vous avez en tout cas des collègues professeurs. Comment vous, vous appréhendez cette question de la culture d'entreprise et de ce qu'on peut partager comme valeur dans son lieu de travail?
Donc j'enseigne au lycée Saint-Thomas d'Aquin, qui est un lycée privé d'enseignement catholique, mais également d'inspiration dominicaine. Donc il y a une spiritualité dominicaine qui est assez présente dans notre pédagogie éducative. Il y a un souci en commun, qui est un souci de transmettre aux élèves le monde dans lequel nous habitons, nos valeurs, de les élever, de les éduquer. Donc, je dirais, ce que nous avons en commun, c'est une mission. Ce qui n'est pas tout à fait sans rapport avec la vie dominicaine, où dans l'ordre dominicain, ce que nous avons en commun, c'est aussi une mission.
Est-ce que ce que vous avez en commun va aussi jusqu'à la foi ?
Alors, je ferai une distinction entre la foi et les valeurs. Les professeurs, nous partageons en commun des valeurs chrétiennes, de liberté, d'éducation à la liberté, de vérité, mais nous ne partageons pas une foi commune. Et il n'est pas demandé aux professeurs de partager cette foi commune.
C'est pas obligatoire.
Non. Ils doivent entrer dans le projet de l'établissement et partager les valeurs qui sont celles de l'établissement.
On sait que dans les écoles, en particulier enfin, dans les lycées, mais à tout niveau, les professeurs sont un peu, entre guillemets, maîtres dans leur classe, hein, même si on peut suivre la manière dont ils construisent leur pédagogie. On sait aussi que la salle des professeurs, c'est un lieu un peu particulier, hein, où vous vous retrouvez. C'est quoi le facteur clé pour qu'effectivement il y ait construction d'une cette culture en commun sans que vous soyez chacun électron libre dans votre classe?
Alors, je suis professeur depuis 5 ans. On pourrait dire les choses comme ça. La classe, c'est le front où on rencontre les élèves. Et l'arrière, c'est la salle des professeurs. C'est l'endroit où nous nous retrouvons pour nous reposer, parce que les cours sont parfois éprouvants, pour discuter ensemble des élèves, pour corriger les copies. C'est le lieu où les professeurs se rencontrent et où les professeurs partagent.
En quoi on peut comparer, parce que là on parlait avec Robin Trépose de la culture d'entreprise, et on connaît certaines entreprises qui ont une culture très très forte, je pense à des grands piliers de l'industrie automobile ou électronique, je ne vais pas citer de nom ici, mais en quoi dans une école on peut parler de culture d'entreprise ou pas?
On peut parler d'une culture d'entreprise puisque un établissement a une histoire, parfois longue, parfois plusieurs fois centenaire, et cette histoire crée un esprit commun. Il y a des professeurs anciens, parfois morts, qui sont des références. Et donc, le lycée s'appuie sur une tradition. C'est cette tradition qui forme notre esprit commun.
Alors, on a parlé de votre métier de professeur, mais j'aimerais qu'on parle de votre autre lieu de travail, qui est aussi votre lieu de vie. C'est cette communauté dominicaine du couvent de la Tourette. Et vous me disiez en préparant cette émission qu'il y a des points communs entre une entreprise et une communauté religieuse. Alors, on a du mal à vous croire. Quel point commun?
Alors, donc, je vis au couvent de la Tourette, qui est un couvent dominicain dans les monts du Lyonnais, qui a un statut un peu particulier, puisque c'est un monument important de l'histoire de l'architecture du XXe siècle. Donc, c'est un lieu qui est visité par plusieurs milliers de visiteurs par an. Beaucoup d'étudiants en architecture viennent passer quelques jours au couvent de la Tourette pour se former.
Pour voir les œuvres de Le Corbusier.
Pour voir l'œuvre de Le Corbusier. C'est un lieu où il y a des sessions. Je suis là-bas responsable des sessions, des formations, ce qu'on appelle les rencontres de la Tourette. Donc, il y a des salariés. Donc, c'est aussi un lieu de travail. Mais c'est d'abord pour moi un lieu de vie. Ce que je voudrais dire, c'est que vous avez posé la question, que partage-t-on dans un lieu de travail? Là, nous pourrions dire, on partage tout. Nous partageons tout dans une communauté religieuse. C'est une communauté qui prend toute l'existence de celui qui s'y engage. En général, on est engagé dans plusieurs lieux, une famille, des groupes. Ce qui est particulier dans la vie religieuse, peut-être plus encore dans la vie contemplative, c'est que tout l'être est pris par la communauté. Donc nous avons tout en commun, on pourrait dire ça. Nous avons tout en commun. Il y a un espace commun qui est notre seul lieu de vie.
Ça, c'est très, très différent de l'entreprise, de fait.
Oui.
Parce
oui.
qu'on n'a pas cette séparation entre vie professionnelle et vie privée.
Alors, ça exacerbe certaines caractéristiques de la vie en entreprise. D'abord, nous ne nous choisissons pas, comme dans les entreprises. Nous venons de milieux sociaux très différents. Nous avons des âges très différents.
Comme dans une entreprise.
Comme dans une entreprise. Mais on pourrait dire, comme on est plus engagé que dans une entreprise, en général, il y a plus de violence, ou il y a plus de risques de violence.
Alors ça, c'est étonnant que vous employiez le mot violence, parce qu'entre frères dominicains, on a du mal à l'imaginer. Pourquoi vous employez ce mot? C'est un mot fort, violence.
Parce que dès qu'il y a des individualités fortes qui vivent ensemble, comme c'est le cas au couvent de la Tourette et dans l'ordre dominicain en général, il y a de la violence qui vient du conflit entre des volontés. Alors, il y a une manière de gérer la violence, qui est la loi, la règle, le droit. Nous sommes très attachés à nos institutions qui ont 8 siècles d'expérience, qui sont construites, renouvelées depuis 8 siècles. Et on apprend dans l'ordre dominicain à, disons, à gérer la violence par l'institution. Je prends un exemple. L'usage de la parole. Au lieu de réagir vivement lorsque l'on est fâché, parfois pour une cause bénigne, mais pour une cause grave aussi, si on est un peu sanguin, on risque de réagir immédiatement. L'institution prévoit des lieux de parole, comme le chapitre. Le chapitre, c'est la réunion des frères dominicains une fois par mois, où l'on peut, à distance, non pas dans l'instant, mais à distance, réagir et dire clairement, et là aussi vivement, ce que l'on a à dire. Et donc, il y a une certaine manière de gérer la parole.
Donc, on va attendre un mois pour parler.
Oui, mais ça permet aussi, on va attendre au maximum un mois et au minimum quelques heures, mais ça permet de gérer cette violence, de gérer les rapports humains, de gérer la parole. Je crois que ça, c'est quelque chose que l'entreprise peut s'inspirer de ça.
Alors, vous évoquiez le mot s'inspirer, effectivement. Bon, on sent que c'est quand même très particulier de vivre dans une communauté religieuse qui plus est en 2014. Vous êtes de moins en moins nombreux. En quoi cette vie en communauté, ces règles, cette expérience multiséculaire que vous évoquez a quelque chose à nous dire sur la culture d'entreprise?
Alors, je vais prendre les choses par un autre bout. Dans une entreprise, il y a des choses en commun. C'est un espace commun, une entreprise. Et il est nécessaire, il me semble, que les différents membres de l'entreprise se sentent responsables du bien commun, tout simplement du matériel, de l'espace. En communauté, on apprend à se sentir, à vivre, à être responsable de ce que nous avons en commun, puisque nous avons tout en commun. Je remarque que c'est plus facile dans une petite communauté que dans une grande communauté. Dans une grande communauté, chaque frère a tendance à faire reposer sur les autres la responsabilité de ce qui est matériel, du souci matériel, d'un verre à laver, du ménage, des fuites d'eau, etc. Alors que dans une petite communauté, chacun est beaucoup plus partie prenante du soin qu'il faut apporter à ce que nous avons en commun, à l'espace commun. Donc je crois que la taille est un facteur important pour permettre de se sentir responsable de ce que l'entreprise possède, ce que l'entreprise a en commun avec les salariés.
Ce soir, on s'intéresse à savoir, quant à savoir dans la culture d'entreprise, ce qu'on partage, jusqu'où on peut partager d'ailleurs dans le lieu de travail. Est-ce que dans une communauté religieuse, il y a une limite? Il y a des choses qu'on ne partage pas?
Oui. Heureusement, j'allais dire. Alors, ce qui est particulier dans une communauté religieuse, c'est des hommes, en l'occurrence au couvent de la Tourette, qui vivent ensemble, mais qui sont rassemblés pour une mission commune, qui se sentent donc subjectivement, plus ou moins, suivant les moments de la vie, mais subjectivement appelés à être là, et qui concrètement sont là pour une mission commune. On ne vit pas ensemble juste pour vivre ensemble. On vit ensemble pour annoncer ensemble la parole de Dieu, chercher Dieu, étudier, prier ensemble. Ce que je voudrais dire, c'est que ce qui me semble important dans une entreprise ou dans une communauté religieuse, c'est que chacun soit reconnu. Tout est exacerbé dans une communauté religieuse et on peut souffrir, je vous rassure, ce n'est pas mon cas, d'un manque de reconnaissance. Donc je crois que la communauté doit être attentive à donner à chacun sa place, y compris aux frères anciens, puisqu'on vit avec des personnes de tout âge. Les gens ne sont pas, comme ça peut arriver parfois dans des entreprises, jetés à 55, 60, 65 ans. On vit avec des hommes fragilisés par l'âge, qui ont entre 80 et 95 ans. Donc, je reviens à l'idée que je veux me défendre. Il faut que chacun ait sa place, que chacun puisse être reconnu, quel que soit son âge, qu'il ait une activité. Il y a une manière de s'adresser à l'autre également, qui permet à chacun d'être reconnu.
Ça pourrait être un message, ça, pour les entreprises ?
Oui.
Chacun ait sa place ?
Oui, sans doute. Que chacun soit valorisé à la place qui est la sienne.
Alors, on va poursuivre cette réflexion sur la culture d'entreprise avec vous, Bruno Roche. Je rappelle que vous êtes professeur de philosophie, directeur du département entreprise du Collège supérieur. D'abord, vous souhaitez écarter la position habituelle du philosophe face à la culture d'entreprise.
Oui, non, c'est-à-dire que vous savez, le philosophe, souvent, il a une position qui est celle du jugement. Et donc, sur cette question... Je dirais qu'il a tendance à prendre deux postures. La première qui serait de dire, au fond, il faut humaniser l'entreprise. Il faut réduire justement cette violence dont parlait Pascal David tout à l'heure. Et donc, au fond, une entreprise qui réalise les fins et qui contrôle les fins, c'est au fond l'idéal pour le philosophe. Et donc, il tombe ici, me semble-t-il, dans une illusion qui est de croire que, précisément, une organisation comme l'entreprise peut s'affranchir de toute forme de violence. Et puis, il y a un deuxième point de vue critique qu'on voit souvent surgir, qui est celui qui consiste à dire, au fond, culture d'entreprise, c'est de la rigolade, c'est pas la culture, c'est la recherche du temps perdu.
C'est pas sérieux.
Et c'est pas sérieux. Et je l'entends souvent, puisque je suis philosophe et un tout petit peu consultant, je sens bien la moquerie de mes petits camarades. Et deuxièmement, les valeurs dont parle l'entreprise, mais en fait, c'est pas les valeurs, parce que la valeur, c'est ce qui vaut en soi, et c'est ce qui, précisément, doit résister à toute forme d'instrumentalisation. Et donc, on aura beau jeu de dénoncer dans l'entreprise cette instrumentalisation des valeurs qui fait qu'au bout du compte, ce n'est pas vraiment des valeurs pour le philosophe.
Donc, vous réfutez cette...
Moi, c'est-à-dire que je crois qu'avant de juger, il faut essayer de comprendre le phénomène et si vous voulez, l'interroger dans son histoire.
Hein. Alors, parce que ça remonte à quand, le concept de culture
d'entreprise ? Alors, il est assez récent, en fait, le concept de culture d'entreprise. Hein. Il date, disons, de la deuxième moitié du XXe siècle.
Ah oui, c'est si récent que ça.
Ouais, il faut apporter cependant une nuance, c'est-à-dire que l'entreprise, pour ainsi dire, a participé à un grand projet social et culturel au XIXe siècle. Hein. Et particulièrement dans la deuxième moitié du XIXe, se déploie l'idée, l'idéal, l'horizon selon lequel la science, la technique et l'industrie vont main dans la main vaincre la misère.
C'est dans le cadre de en phase avec la première révolution industrielle.
Voilà, il y a une forme d'utopie qui se déploie là et qui donc intègre l'entreprise, l'industrie, l'entreprise industrielle dans un grand projet au fond social et culturel qui va d'ailleurs être un projet qui anime les utopies. Ça, on l'a très souvent oublié parce qu'en fait, nous n'avons pas malheureusement de philosophie de l'industrie ou d'histoire de l'industrie. Elle reste à écrire et c'est un projet que je poursuis d'ailleurs. Mais, donc, si vous voulez, ça, c'est le premier point. Après, le mot « culture d'entreprise » à proprement parler, il survient, donc, je vous le disais, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Pour quelle raison ? Ben, au fond, parce qu'il y a eu un conflit entre, je dirais, deux rationalités. Une première rationalité qu'on peut dire la rationalité des modernes. La rationalité des modernes, chacun le sait, c'est la rationalité scientifique et technique. Donc, c'est la rationalité par laquelle une organisation cherche à déployer donc son maximum d'efficience en prenant pour modèle le paradigme de la machine. Taylor, là-dessus, donc, nous a des pages tout à fait saisissantes. Bien. Et donc, cette rationalité entre en conflit avec une deuxième rationalité qui est ce que j'appellerais la rationalité des anciens. Et cette rationalité, c'est celle des usages, c'est celle des coutumes, c'est celle des rituels, c'est celle du pouvoir symbolique. D'un côté, vous avez reconnu la gestion, et de l'autre côté, vous reconnaissez la culture. Et donc, au bout du compte, je dirais jusqu'en 1960, il y a une ligne de démarcation très claire entre, donc, d'un côté, le sérieux scientifico-technique de la gestion, et de l'autre côté, donc, la culture qui intéresse les anthropologues, les usages, les rites, etc., etc. Et puis, il se passe à ce moment-là quelque chose qui est un événement historique quand même tout à fait incroyable, c'est le succès incroyable de l'économie japonaise et de l'industrie japonaise. Et les Américains donc se disent, mais comment se fait-il qu'un pays, on va dire, qui est travaillé par une culture aussi ancestrale, qui présente une très grande force des rituels, des usages, etc. Comment se fait-il que ce pays-là peut avoir un succès économique aussi fulgurant ?
Et donc, il se pose des questions.
Et ils disent, tiens, mais finalement, est-ce que l'entreprise ne doit pas, intégrer les deux rationalités ? Et on voit donc à ce moment-là surgir tout un champ de la sociologie de l'entreprise, pas vraiment encore de la philosophie de l'entreprise, pourquoi, mais de la sociologie de l'entreprise, qui va chercher donc à rendre compatible ce qu'il est difficilement, c'est-à-dire une organisation scientifico-technique qui donc prend comme modèle l'efficience mécanique, et en même temps donc une approche culturelle qui va chercher à travailler autour des conduites, des comportements, des rituels, de la symbolisation. Alors, ce qui va se traduire par l'entrée en scène dans l'entreprise dans les années, on va dire, 70, de ceux qu'on a appelés les gourous, soft, easyhard, etc., enfin, avec des slogans qu'on connaît bien. C'est-à-dire, donc, il faut casser la machine, en gros. L'entreprise, son paradigme, ce n'est pas la mécanique, mais c'est un organisme vivant. Et donc, il faut qu'il y ait cette adaptabilité, cette souplesse, ces marges. Ce qui est intéressant, c'est ce qui se passe dans les marges. Bon, voilà. Et plus on va aller dans une économie de l'innovation, et effectivement, plus finalement la machine bien réglée, vous voyez, qui s'est déployée selon le modèle de la gestion rigoureuse, va se trouver un peu inadaptée finalement à ce qu'elle demande aux individus, c'est-à-dire de l'innovation, de la capacité de sortir du cadre, de l'aptitude à définir de nouveaux modèles. On va leur demander pas seulement de collaborer, on va leur demander de coopérer. On va leur demander de coopérer en échangeant sur les meilleurs modes de résolution des problèmes. Enfin, autrement dit, il y a toute une atmosphère, vous voyez, qui va se créer. Et clairement, c'est là que la notion même de culture d'entreprise prend ses lettres de noblesse. C'est-à-dire chaque entreprise va trouver, je dirais, son propre équilibre entre rationalité, on va dire, des anciens et rationalité des modernes, ou entre rationalité technique et ce qu'on peut appeler une rationalité de l'ordre du rite ou de la puissance symbolique.
Voilà, donc cette notion de culture d'entreprise s'impose, en particulier dans les années 80. Aujourd'hui, la notion de culture d'entreprise, là, en 2014, on en est où ?
Out. Clairement, c'est fini. C'est un thème qui n'est plus du tout dans le champ des réflexions.
Ah, c'est incroyable, ça. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ?
Je le vois dans le centre de formation continue de l'ESSEC, par exemple. On voit bien ce qui est intéressant, c'est d'écouter les mots utilisés aussi. Vous voyez, la notion de culture d'entreprise, en fait, elle a justement cédé le pas. Justement à la notion de management par les valeurs.
C'est-à-dire ?
Alors ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire, si vous voulez, quand vous vous posez la question, comment faire en sorte pour que des hommes et des femmes coopèrent pour une mission commune ? Vous êtes dans une réflexion interne. Okay ? Et là, au fond, on pourrait dire que la culture d'entreprise suffit pour imaginer à la fois les procédures et en même temps l'esprit et les rites et la puissance symbolique qui va permettre donc cette coalescence et cette agrégation des volontés. Maintenant, quand l'entreprise ne porte plus sur elle un regard interne, mais quand elle regarde à l'extérieur d'elle, et quand elle se rend compte finalement que sa légitimité sociale est, pour ainsi dire, remise en cause. Quand le contrat social qui liait l'entreprise et la société se trouve rompu, comme ça a été le cas pour nous, à partir du premier choc pétrolier, c'est-à-dire à partir du moment où le chômage, en fait, est devenu une réalité endémique de nos sociétés contemporaines. Le contrat social et le contrat moral, pour ainsi dire, entre les entreprises et les salariés, s'est trouvé rompu. Le salarié disait « je vous donne ce que je sais faire », l'entreprise disait « je vous donne un job ». Cette base, si vous voulez, d'accord, eh bien, elle s'est trouvée rompue. Et donc, ça veut dire qu'il faut maintenant à l'entreprise de nouvelles légitimités, j'allais dire. Il lui faut non seulement travailler en interne pour donc obtenir cette coopération, mais il lui faut aussi légitimer son action auprès de ce qu'on appelle aujourd'hui les parties prenantes. Mais la légitimant auprès des parties prenantes, on la légitimera aussi auprès de ceux qui y travaillent. Et donc là, nous entrons dans un management par les valeurs.
RCF Lyon-Fourvière, Philippe Lansac.
Bienvenue sur RCF, si vous nous rejoignez. Nous parlons aujourd'hui de culture d'entreprise. Que partage-t-on dans notre lieu de travail, culture d'entreprise et valeurs? On en part avec Robin Trépos, qui est directeur et fondateur de Concept Image, une agence de communication digitale. Pascal David, religieux dominicain, professeur de philosophie en lycée et religieux au couvent de la Tourette. Et puis Bruno Roche, professeur de philosophie, responsable du département entreprise du collège supérieur et intervenant dans le département formation continue de l'ESSEC. Robin Trépos, là on vient d'entendre Bruno Roche sur cette évolution, la notion de culture d'entreprise, et qui dit qu'aujourd'hui la culture d'entreprise est complètement out. Comment vous réagissez à ces propos?
Bon, je suis assez d'accord. Non, je dirais que je pense que les collaborateurs, et j'en ai été un quand j'étais salarié, on a vécu, je ne vais pas dire une trahison, parce que je pense que les chefs d'entreprise n'ont aucune envie, c'est pas par plaisir qu'on fait parfois des plans sociaux, c'est par responsabilité de s'adapter à des situations. Et je pense que les collaborateurs ont perdu cette illusion de croire qu'effectivement l'entreprise pourrait tout faire. Donc à partir de là, on est sur un contrat, je ne vais pas dire gagnant, un contrat. On vit cette histoire le temps que, et on espère que le temps qu'on est dans l'entreprise, on partage, puis après on s'en va et puis on oublie. Donc la culture d'entreprise sur on va aller là, c'est comme les business models ou les plans à 3 ans, 4 ans, 6 ans. La situation d'aujourd'hui a montré que ça n'existait pas. Et qu'il valait mieux, on parlait tout à l'heure de management par valeur, que le temps où le collaborateur dans l'entreprise, eh ben, il faut qu'il adhère à un manager qui l'anime, chef d'entreprise ou manager, suivant la taille de la structure. Et du coup, ça revient à ce que je disais au départ, je pense qu'il vaut mieux être en vérité dans les limites que j'ai évoquées tout à l'heure, mais un plan écrit, vous voyez, c'est là que ça se passe, etc., j'y crois plus beaucoup.
Vous s'en attristez de ça, le fait qu'il n'y ait plus ce contrat de fond là, de société entre salariés et entreprise?
Non, parce que je pense qu'en fait, tant qu'on a une certaine vérité dans la façon d'être avec les personnes, je ne pense pas que ce soit un problème.
Pascal David, vous, votre contrat, là, il est à vie, j'ai envie de dire, dans une communauté religieuse. Comment vous réagissez là, à cette évolution dans les entreprises et dans la société?
Oui, je suis sensible à cette idée. En entreprise, il est difficile d'avoir une culture commune dans la mesure où les salariés ne reste pas, c'est ça, change souvent de lieu de travail. La mobilité, finalement, est un frein à la culture d'entreprise. C'est vrai qu'on n'a pas ce problème dans l'ordre dominicain, où d'une part, il y a une tradition longue, un passé de 8 siècles, qui crée une culture d'entreprise avec des patrons qui font référence dans le passé, des manières d'être, de se parler, un langage aussi propre à notre entreprise. Et comme on sait qu'on sera là pour, normalement, toute l'existence, c'est vrai qu'on peut faire des projets plus facilement à long terme.
Ah oui, c'est très très long terme. Là.
C'est un véritable CDI en fait.
c'est exactement ça.
Ah non, c'est un CDI.
Non, mais c'est ça, c'est un CDI. C'est-à-dire quand on rentre dans l'ordre dominicain, on a d'abord un CDD, on a un CDD de 3 ans, ça s'appelle la profession simple, renouvelable plusieurs fois, trois fois on peut renouveler sa profession simple pour un an, et puis un jour on obtient un CDI, et normalement le CDI ne s'arrête pas.
Bruno Roche, on évoquait ce management par la culture d'entreprise et par les valeurs. Au fond, quelle différence faire là, entre valeurs et culture dans ce qu'on peut partager dans le milieu du travail ?
Alors, si vous voulez, je crois qu'il y a quand même un très grand sociologue, je suis obligé de le citer à ce micro, qui est Philippe Diribarne, qui a écrit un très bon bouquin dans les années 90 qui s'appelle « La logique de l'honneur ». Et en fait, ce que Diribarne a montré, c'est que chaque société, mais non pas au sens de l'entreprise, hein, au sens du corps social, chaque société, en fait, déploie sa propre représentation de ce qu'est recevoir un ordre et de ce qu'est obéir à un ordre. Et Diribarne, qui fait de la bonne sociologie, c'est-à-dire de la sociologie appliquée, prend donc dans son livre trois exemples, l'exemple des États-Unis, l'exemple de la France et l'exemple de la Hollande. Et il dit, voilà, si on veut traiter sérieusement la culture d'entreprise, en fait, il faut comprendre comment les entreprises sont elles-mêmes impliquées dans une culture nationale qui déploie donc une certaine conception des rapports de commandement et d'obéissance.
C'est alors, ça qui est premier, hein, c'est ces rapports ouais,
d'obéissance. Voilà. C'est-à-dire, finalement, ça n'appartient pas vraiment à l'entreprise. Vous voyez, la culture d'entreprise, de ce point de vue-là, n'appartient pas vraiment à l'entreprise. Elle appartient d'abord, finalement, à la société dans laquelle elle fait partie. Alors, bon, pour être rapide, sans vouloir trop développer, Diribarne titre son livre donc « La logique de l'honneur » parce que, pour lui, la France montre la prévalence pour l'honneur, c'est-à-dire pour le rang, pour le statut, ce qui fait qu'effectivement, en France, on reconnaît au premier coup d'œil un directeur, on reconnaît au premier coup d'œil un employé, il a une démarche différente, il a une manière de se présenter différente, ils ont des relations, ils entretiennent des relations différentes. Pour lui, donc, en Hollande, la règle est le consensus, c'est-à-dire vraiment la coopération entre les individus et le fait que les décisions doivent résulter, quand bien même ce serait un peu long, donc du consensus. Et les États-Unis, on l'a dit tout à l'heure, c'est le contrat. Et il y a des analyses extrêmement fines, vous voyez, montrant que finalement, la culture d'entreprise, c'est d'abord cette appartenance de l'entreprise à une culture finalement donnée, à une culture qu'elle reçoit.
C'est intéressant ça, Pascal David, là, ce rapport à l'autorité, ce rapport à la règle et à l'obéissance. Est-ce que vous, dans votre ordre dominicain, c'est une question qui se pose de manière différente entre des dominicains venant d'Amérique du Nord, Amérique latine, d'Afrique ou d'Asie ou d'Europe ?
Alors en écoutant Bruno Roche, je me demandais à quelle culture d'entreprise est-ce que j'appartenais, et c'est plutôt une culture d'entreprise du consensus, c'est-à-dire une culture démocratique, c'est-à-dire une culture où on prend le temps de parler autant de temps qu'il faut pour que nous puissions prendre une décision ensemble. Les supérieurs sont élus pour un temps limité à chaque fois, et ne jouissent absolument d'aucun prestige lorsqu'ils ont fini leur charge. Donc ce n'est pas une culture de l'honneur, ce n'est pas une culture du contrat, c'est une culture du consensus. Culture de consensus à laquelle doivent donc s'habituer, dans laquelle doivent entrer ceux qui entrent dans l'ordre dominicain, vous allez dire, quelle que soit leur culture de départ, pour répondre à votre question.
Mais c'est possible, ça ?
D'abord, c'est un choix. D'abord, c'est un choix. C'est un choix éminemment personnel qui répond à moins de contraintes que le choix d'entrer dans une entreprise. Il me semble qu'il y a des cas où on entre dans une entreprise par contrainte, parce qu'il faut gagner sa vie, parce qu'on obtient un emploi dans telle entreprise. Alors qu'il me semble que la logique n'est pas exactement la même quand on entre dans l'ordre dominicain. On n'y cherche pas d'abord un emploi, une source de revenus ou une reconnaissance. Ce n'est pas ça qui motive en premier. Donc, il y a une dimension, il me semble, plus personnelle de l'engagement. Et encore une fois, il y a le temps nécessaire donné pour se former à cette culture-là. Il y a 10 ans de formation, ce qui n'est pas possible, il me semble, ou rarement, ou plus difficilement possible dans une entreprise.
Romain Trépose, cette question-là du rapport à l'obéissance et à la règle, qui on le sent dans ce que nous disait Bruno Roche, et à la fois de toute manière, Pascal Daville est un enjeu important. Comment vous l'appréhendez là, sur ce que vous avez pu vivre avec vos employés dans une équipe qui n'était pas des grosses équipes, hein?
Alors, l'obéissance, malgré la génération Y, il n'y a pas trop de soucis d'obéissance en tant que telle à une règle.
C'est étonnant, ça, on dit en général le contraire.
Ah oui. Non, ils sont... Enfin, je ne vais pas dire qu'ils sont obéissants. Moi, je suis un patron de... Je ne sais pas, de consensus, j'en sais rien. Mais en tout cas, j'ai alterné entre une direction à donner parce qu'ils avaient besoin d'une direction, ils la demandaient. Et pour autant, ce qui est particulier, en tout cas dans mon domaine qui est le digital, mais je pense que ça va se déployer dans pas mal, je ne vais pas faire de la technique, mais pour faire un site web, il faut un développeur, c'est quelqu'un qui fait du code. Et le développeur, il n'y a que lui qui sait si ça prend un jour, 10 jours pour faire un site internet. Moi, je suis incapable de lui dire tu as raison ou tu as tort, je ne maîtrise pas son savoir, pas plus que l'ADA, le graphisme, etc. Donc à partir de là, l'obéissance, ils obéissent à une règle qui est de dire il faut rentrer dans les temps et je les responsabilise par rapport à ça. Donc pas de souci d'obéissance. En revanche, obéir sans sens derrière, ça, je pense qu'ils n'y arrivent pas. Et donc s'ils ne voient pas le sens de leur travail, s'ils ne voient pas pourquoi ils le font, bah, ils le font mal et ils s'ennuient et ils vont sur Facebook au-delà des heures syndicales.
Ce rapport à l'obéissance qui a franchement changé, on le sent avec l'ère digitale, Bruno Roche, ça aussi, ça remet en cause cette question de la culture d'entreprise.
Et oui, c'est-à-dire que nous avons en fait deux demandes de justification. Il y a une première demande de justification que la société en fait adresse via ses médias, via ses pouvoirs publics aux entreprises. Justifiez votre activité. Donner la justification de votre activité. Et il y a une deuxième demande de justification, alors qui est vieille aussi comme le monde, mais qui est peut-être probablement plus valorisée aujourd'hui par la génération Y, en effet, dont Robin parlait tout à l'heure, qui est la demande de sens, le besoin de sens des salariés eux-mêmes, qui est en même temps un besoin de reconnaissance et un besoin de participer à une œuvre commune qui, je dirais, ajoute quelque chose, vous voyez, qui a une fécondité au-delà des intérêts strictement marchands qu'elle produit.
Est-ce que ça pourrait donc être ça qui relie aujourd'hui les gens au fond dans l'entreprise, au-delà de la culture d'entreprise ? Parce qu'au fond, vous disiez la culture d'entreprise, c'est out. Alors qu'est-ce qui relie les gens dans un milieu de travail aujourd'hui ?
Ben, y a cette demande de justification, moi je crois que l'entreprise est au cœur de cette demande de justification, mais au-delà de la justification et comme sous-jacente à cette demande, il y a, je pense, la demande de justice. Et alors c'est un thème américain constant, vous savez que le contrat n'est jamais pensé chez les Américains indépendamment de ce qu'ils appellent le fair, hein, c'est-à-dire le juste, l'équitable, l'application équitable du contrat. Et je crois que, en effet, on sera de plus en plus sensible à cette dimension du juste, qui est à la fois une dimension de la justesse, voyez, et une dimension de la justice. Hein. De la justesse, c'est-à-dire de cette adaptation finalement à des circonstances variées, qui fait que je prends la bonne attitude face à un individu, de la justice au sens où là, nous sommes à la fois dans l'application du contrat et en même temps dans le respect d'une forme d'équité au-delà de la lettre du contrat.
Et c'est ça qui est le socle.
Oui, je crois, d'après ce que disent, enfin, quand on lit des choses sur la génération Y, on lit en tout cas cette préoccupation pour le juste, pour la justesse, pour la justice. C'est-à-dire que, à la différence de la génération précédente, enfin, si tout ça a un sens, bon, mais à la différence de la génération précédente, la génération Y serait, vous savez, déniaisée. Hein, c'est-à-dire qu'elle ne croit plus aux grandes idéologies, bon, etc. Tout ce qu'on raconte sur la perte finalement du sens politique et sur la perte au fond de crédibilité des utopies. Mais on dit de cette génération qu'elle est utopiste au niveau local. C'est-à-dire qu'elle veut réenchanter le local. C'est-à-dire que voilà, bon, elle ne pense plus à l'échelle, en quelque sorte, d'une justice qui serait instaurée pour l'univers.
Mais universelle. Ouais.
Universelle. Mais elle poursuit des fins. Alors donc, d'où l'importance de l'authenticité, vous voyez, parce que l'authenticité, c'est le mariage justement entre cette finalité. Cette recherche de signification, de fécondité et un territoire bien circonscrit.
Pascal David, j'aimerais que vous réagissiez à cette notion de justice là, qui apparaît aujourd'hui comme le socle de ce qui relie les gens dans leur milieu de travail, au-delà même d'une culture d'entreprise ou de valeur. Comment cette notion de justice ou de justesse, comme dit Bruno Roche, est appréhendée chez les Dominicains?
Alors, ce que je voudrais dire d'abord, en réfléchissant à ce que vient de dire Bruno Roche, qu'il me semble que se sentir appartenir à une entreprise veut dire, lorsqu'il n'y a plus d'idéologie, veut dire se sentir chez soi dans l'entreprise, avoir le sentiment d'y être chez soi. On est chez soi dans sa maison, il y a différents degrés du chez soi, on se sent peut-être plus chez soi dans sa maison que dans sa rue, mais on n'est plus chez soi dans sa ville que dans une autre ville, on n'est plus chez soi dans son pays que dans le pays voisin, on est plus chez soi en Europe, et on fait cette expérience d'être chez soi en Europe lorsqu'on quitte l'Europe. Il me semble que, concrètement, simplement, géographiquement, dans l'organisation de l'espace, appartenir à une entreprise, c'est se sentir chez soi lorsqu'on y arrive, lorsqu'on y entre. Pour moi, le contraire de ce chez-soi, c'est l'ouvrier qui travaille à la chaîne, qui est déraciné, qui doit travailler comme ça n'existe plus, qui doit travailler en temps chronométré, payé aux pièces. Voilà, l'ouvrier est totalement déraciné. Il me semble qu'il faut aller à l'opposé de ce modèle et que le salarié, celui qui travaille dans une entreprise, éprouve le sentiment d'être chez lui lorsqu'il y entre. Moi, c'est le cas dans mon lycée. Quand j'arrive dans mon lycée, je suis pour une part chez moi. Alors souvent, on fait l'expérience du chez-soi lorsqu'on quitte le lieu où on est chez soi. C'est-à-dire quand j'arrive dans un autre lycée, je fais l'expérience que je ne suis pas chez moi. Et donc, mon lycée, c'est chez moi. Voilà. Du coup, j'ai oublié votre question.
Non, il y avait cette question de l'appréhension de la justice, du juste et de la justesse dans le rapport entre les gens qui sera un socle dans l'entreprise.
Alors, pour parler avec des auteurs et philosophiquement un instant, il me semble que cette question du juste doit justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, être dépassée par le thème de la reconnaissance. Donc John Rawls par accès honnête. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas ce soit juste, que les règles de justice soient respectées pour que cela fonctionne. Il faut une reconnaissance des individus. Il faut que ce qu'apporte chaque individu dans l'entreprise soit reconnu à sa juste valeur. D'une part, une reconnaissance sociale. Il faut une reconnaissance juridique. Il faut que chaque individu se sente digne, éprouve le sentiment de sa dignité étant à la place qui est la sienne. Et troisièmement, il faut qu'il développe des relations individuelles, personnelles, avec d'autres membres de l'entreprise. Ce qui se vit dans l'ordre dominicain, il me semble, quand ça fonctionne, il y a une place qui est donnée à chaque frère qui vient de son statut de dominicain. Il a voix au chapitre, comme on dit, expression traditionnelle. Il développe des relations d'affinité, d'amitié avec d'autres frères. Et son activité à l'extérieur du couvent ou à l'intérieur est reconnue, valorisée, valorisante. Il est par exemple sacristain, bibliothécaire, responsable des études, formateur, supérieur de la communauté, etc. Il a une place qui est reconnue par tous, quel que puisse être son prestige.
Robin Trépos, j'aimerais que vous réagissiez à cette notion du chez-soi, c'est chez-moi, ce degré d'appartenance là. Comment vous l'avez vécu avec vos collaborateurs ?
Bah en fait, c'est marrant parce qu'on a déménagé il y a quelques temps, après avoir passé 10 ans chez nous, Quai Saint-Vincent. Et la première chose qu'on a fait lorsqu'on a emménagé les premiers locaux, le deuxième, on n'avait pas fait, c'était de repeindre et de faire, refaire une pièce pour se sentir chez nous. Donc je partage totalement. Et je disais qu'on n'était pas chrétien, on ne s'arrêtait pas à 9h. Et ben, quand on change, on a plusieurs maisons. Et quand on arrive à son bureau, on a envie de retrouver son bureau, on fait son petit bureau, ses photos, ses machins. Donc oui, chez soi, c'est important.
Bruno Roche, pour conclure notre échange, Pascal David, à l'instant, évoquait au-delà de la justice la notion de reconnaissance, qui semble majeure. Comment vous réagissez à ce que dit Pascal David?
Une remarque par rapport à ça. Vous savez que lorsqu'une entreprise en fait veut établir sa culture ou déterminer les valeurs qui sont les siennes, bien souvent, elle a recours à une charte de gouvernance. Et ce qui me frappe dans les accompagnements que j'ai pu faire sur ces sujets-là, c'est qu'en fait, le moment le plus intense, c'est justement le moment de la coopération, pour utiliser un mot philosophique, dialogique, enfin dialoguer, entre les membres de l'entreprise pour élaborer justement cette charte. Il y a une sorte de mouvement collectif. Il y a à la fois le chez-soi et en même temps la recherche de quelque chose qu'on n'a pas encore tout à fait identifié et on va le faire ensemble. Et c'est le moment crucial, en fait. Parce qu'une fois que vous avez élaboré cette charte, la difficulté, c'est quoi? La difficulté, c'est que précisément, elle puisse vivre dans les conduites les plus quotidiennes. Et le problème, c'est que bien souvent, l'urgence, les difficultés du moment, etc., font que finalement, cette charte devient de plus en plus déclarative, hein, et au fond, de moins en moins, un principe véritable d'inspiration. Et je crois que l'effervescence qui est créée au moment où on rédige cette charte tient précisément du fait qu'il y a là un processus de reconnaissance qui véritablement se joue. Et il faut terminer quand même en philosophie. Pourquoi ce processus de reconnaissance? Parce qu'on demande aux gens de faire finalement ce qu'il y a de plus grand en eux, c'est-à-dire de penser la valeur, de penser la mission, de penser les fins, de penser ce qu'ils vont faire ensemble. Et cet acte même les met, pour ainsi dire, au-dessus d'eux-mêmes.
Immense merci à vous trois d'avoir aidé à réfléchir sur cette question de la culture d'entreprise et des valeurs. Il y avait avec nous donc Robin Trépos, directeur et fondateur de Concept Image, Pascal David, religieux dominicain, professeur de philosophie du couvent de la Tourette, et puis Bruno Roche, professeur de philosophie, responsable du département entreprise du Collège supérieur, intervenant dans le département formation continue de l'ESSEC. Merci à Pascal Gauthier qui était à la technique aujourd'hui. Merci à toute l'équipe du Collège supérieur qui a monté ce débat. Et puis pour plus d'informations sur ce cycle de conférences vie professionnelle quelques repères et tous les cycles de conférences du Collège supérieur, rendez-vous sur son site internet www.collegesupérieur.com. et puis comme d'habitude, si vous voulez réécouter ou partager avec vos amis cette émission, un site internet www.rcf.fr.